Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'un sujet tabou qui fait peur aux parents et qui rend malade de nombreux adolescents. Les beaux jours arrivent et on les voit déjà recouvrir la une de tous les magazines féminins, ces promesses de régime miracle, ces recettes pour manger sain, ces programmes sportifs qui vous promettent un summer body pour se glisser dans un bikini à ficelle cet été. Mais ce culte de la minceur, ou plutôt de la perfection, ne se cantonne plus à la presse. Il colonise les écrans de nos smartphones. Anorexie, boulimie, orthorexie, quand les réseaux sociaux malmènent le corps et l'esprit, c'est maintenant dans Focus. À mes côtés pour en parler, Odile Pouget. Bonjour Odile.
Bonjour Aude.
Tu es l'une des spécialistes santé ici à RTL. Depuis quelques années, on constate une nette augmentation chez les jeunes de ces troubles du comportement alimentaire. On appelle ça dans le jargon médical les TCA. Il en existe plusieurs, Odile.
Oui, on peut dire qu'il y a trois grandes catégories. Ce sont en effet des maladies toujours mal connues aujourd'hui et dont les complications sont parfois extrêmement grave. Alors, il y a d'abord l'anorexie, c'est le fait de refuser l'alimentation alors même que l'on meurt de faim, c'est l'anorexie mentale, et de refuser la prise de poids alors même que le corps est amaigri à force de restrictions alimentaires,
dans des conditions
de séances de sport intensives, par exemple. La jeune fille anorexique, parce qu'on parle majoritairement de filles, dans 8 cas sur 10, ce sont des filles, la jeune fille anorexique, elle est obsédée par l'idée d'être trop grosse ou de devenir trop grosse. Elle développe une perception anormale de son poids qu'elle voit beaucoup plus important que ce qu'il est en réalité. Elle éprouve un besoin de contrôle de son corps et des calories ingérées pour renforcer le sentiment de maîtrise de sa vie et calmer ses angoisses. Dans la moitié des cas, l'anorexie et la boulimie sont associées. La boulimie, c'est l'absorption d'une grosse quantité d'aliments dans
c'est
un temps...
C'est tout
l'inverse. Absolument. C'est l'ingestion d'une très grande quantité d'aliments dans un temps assez court qui s'accompagne d'une perte de contrôle sur la prise alimentaire. Une crise qui se déroule assez souvent en cachette avec des sentiments de honte, de culpabilité. Et pour prévenir la prise de poids, eh bien, les personnes qui souffrent de boulimie adoptent des comportements, ce qu'on appelle des comportements compensatoires, c'est-à-dire un exercice physique excessif, l'emploi de laxatifs, des vomissements provoqués, des jeûnes répétés. Comme dans l'anorexie, il y a une préoccupation excessive pour le poids et l'apparence corporelle, avec un déficit de l'estime de soi. Les personnes qui souffrent de boulimie font au moins une crise par semaine, mais parfois plusieurs par jour. L'autre catégorie, c'est l'hyperphagie boulimique. Alors là, les crises surviennent en l'absence de sensations physiques de faim. Il n'y a pas de comportement compensatoire. C'est un trouble qui s'accompagne souvent d'obésité, parce qu'on ne se fait pas vomir.
C'est-à-dire qu'on mange énormément.
Absolument.
Mais on ne compense pas.
Absolument.
Ces troubles, on le disait, ils sont en nette hausse ces dernières années, Odile.
Oui, on estime que ces troubles concernent près d'1 million de personnes en France.
C'est énorme.
L'anorexie mentale, elle touche par exemple 1% des femmes et 0,3% des hommes. Et selon une étude scientifique publiée l'an dernier dans un ouvrage de référence qui s'appelle The Lancet Psychiatrie, eh bien la prévalence de ces maladies aurait augmenté de 15% pendant la pandémie liée au Covid-19. En France, les demandes de consultation ont explosé, 30% de plus selon les dernières enquêtes. La ligne téléphonique Anorexie Boulimie Info Écoute a elle aussi vu ses appels s'accroître de 30%. Et une étude, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais une étude menée par le CHU de Montpellier fait état d'une augmentation de plus de 50% des hospitalisations.
Oui, c'est une explosion, c'est une épidémie des troubles du comportement alimentaire, si je puis dire. Alors, il y a la période Covid, c'est la seule explication, Odile, ou il y en a d'autres ?
Non, il y a aussi évidemment l'invasion des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat sont passés par là. Des réseaux qui regorgent d'images de corps et de visages retouchés, supposés parfaits, de vidéos glorifiant la minceur, d'incitation à perdre du poids pour être en bonne santé. Il y a une équipe de chercheurs australiens qui a essayé de déterminer leur rôle sur le développement de ces troubles du comportement alimentaire. Et selon les résultats de leur étude, eh bien les jeunes adultes qui passent le plus de temps par jour sur les réseaux sociaux et qui atteignent le plus grand nombre de visites par semaine sur ces réseaux sociaux présenteraient un risque 2,5 fois plus élevé d'être concernés par un trouble alimentaire.
Alors avec nous également, pour tenter de mettre des mots sur ce phénomène, Nathalie Godard, bonjour.
Bonjour Aude, bonjour Odile.
Vous êtes pédopsychiatre, chercheuse à l'INSERM et spécialiste des troubles du comportement alimentaire chez les adolescents. D'abord, est-ce que vous constatez effectivement de plus en plus de jeunes malades dans votre cabinet et comment vous l'expliquez ?
Alors moi, je travaille à l'hôpital et effectivement, on a une surcroît de demande. Et je crois que le phénomène de ces dernières années est vraiment lié à la pandémie de Covid, avec un lien extrêmement fort entre le stress et les troubles des conduites alimentaires chez les jeunes, mais aussi un lien très fort entre anxiété, dépression, dont on sait qu'ils ont augmenté, et troubles des conduites alimentaires.
Quand on dit que la pandémie de Covid a créé cette explosion des troubles du comportement alimentaire, pour quelles raisons ? Comment vous l'expliquez ?
Eh bien, je vous le disais à demi-mot, c'est via le stress, l'angoisse qui a été créée et les éléments de dépression qui existent en particulier chez les jeunes. Ces éléments-là sont des éléments qui peuvent déclencher chez des gens qui ont une susceptibilité, des comportements alimentaires qui, dans un premier temps, vont les soulager, que ce soit la restriction ou la crise de boulimie, mais qui, dans un second temps, font entrer la personne dans un cercle vicieux et les amènent vers le trouble des conduites alimentaires.
Très concrètement, ce sont des jeunes qui se sont retrouvés bloqués chez eux et qui se sont vengés sur leur placard ?
Alors, vengés sur leur placard ou qui ont essayé justement de ne pas prendre du poids et se sont mis à se restreindre et faire beaucoup d'activités physiques. On sait que dans la population générale, nous avons une gestion du stress qui est liée à notre gestion de l'alimentation. Et à peu près un tiers des personnes dans la population générale, en situation de stress important, vont avoir ce qu'on dit l'appétit coupé et d'autres vont ne pas pouvoir s'empêcher de manger ou de grignoter. Ce phénomène qui est un phénomène, j'allais dire, classique dans la population générale, s'il raconte une trajectoire de vulnérabilité au niveau du développement de la personne, cette trajectoire étant liée à des phénomènes aussi bien des histoires de violence, d'abus, que des histoires personnelles ou familiales qui font qu'ils sont très réceptifs au stress et qu'ils ont ce comportement alimentaire de compensation, la résonance des deux phénomènes va déclencher le trouble des conduites alimentaires.
Alors parmi les facteurs souvent pointés du doigt, il y a les réseaux sociaux, Odile le disait, TikTok, Instagram. Est-ce que vous pensez que c'est un vecteur ou même carrément un facteur ?
Alors vous remarquerez que ce ne sont pas les éléments que j'ai mis au premier plan. On sait très bien qu'effectivement, et vous citiez une étude australienne, il y a un lien extrêmement important entre les perturbations de l'alimentation et le temps passé sur les réseaux sociaux et en particulier ceux qui véhiculent des images avec un phénomène de comparaison, d'insatisfaction corporelle qui vont amener les gens, entre autres, à modifier leur alimentation. Mais comme je vous le disais, tout le monde ne déclenche pas des troubles des conduites alimentaires et il faut avoir une vulnérabilité, une susceptibilité. Et l'augmentation des troubles des conduites alimentaires n'a pas été mis en lien avec cette utilisation des réseaux sociaux. Il faut faire attention de différencier les maladies dont nous parlons, qui sont des maladies extrêmement graves, et les perturbations du comportement alimentaire qui peuvent avoir des conséquences pour la santé, mais qui ne sont pas ces troubles.
Alors, pour réaliser ce podcast, docteur, je me suis glissée dans la peau d'une jeune adolescente. J'ai ouvert un compte TikTok. J'ai aussi utilisé mon propre compte Instagram. Et j'ai commencé à chercher des mots-clés, en fait. Healthy, par exemple, en anglais, pour sain. Et fit, pour la contraction de fitness. Je suis tombée sur des photos, des vidéos d'assiettes, des pubs pour des applications de sport, des conseils aussi totalement contradictoires sur l'alimentation. Et même des vidéos sur YouTube avec des régimes ultra stricts. Il y en a qui proposent de boire uniquement des jus ou encore celui-là.
Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait le régime perdre 10 kilos en 2 semaines. Je ne l'ai pas fait en fait pendant les 2 semaines d'affilée directement, mais j'ai fait une semaine par-ci, une autre semaine par-là. Donc petit déjeuner, c'est le même tous les jours pendant 2 semaines. C'est 2 œufs durs. Et un agrume. Voilà, ça, c'est la seule chose qui ne changera pas pendant 2 semaines. Donc, j'espère que vous aimez les œufs. Ensuite, à midi, alors, j'ai ma feuille qui est juste là. 2 patates douces et 2 pommes. Si vous n'aimez pas la patate douce comme moi, vous pouvez manger 2 pommes classiques. Et il n'y a pas de goûter, hein, bien évidemment. C'est un régime, soyons sérieux. Et le soir, on a le droit à une assiette de salade, avec du blanc de poulet. Donc je l'ai bien assaisonné avec de l'ail en poudre, du poivre, voilà, des épices, ce que vous voulez. Ensuite, le mardi, donc comme on a dit, on répète, 2 œufs, 1 agrume pour le petit-déj. À midi, c'est légumes verts plus salade de poulet. Donc franchement, ça va, c'est assez copieux. Si vous aimez les légumes et la salade, tant mieux, vous allez être servi.
Ah voilà, pour le régime œuf, on va pas aller plus loin. Hein. Visiblement, ce régime, cette influenceuse, elle n'a même pas réussi à le suivre jusqu'au bout. Et pour cause, docteur Godard, il n'est pas du tout équilibré, ce régime.
Vous avez raison, et je pense que les nutritionnistes ont largement souligné que tout régime déséquilibré ou restrictif est extrêmement dangereux pour la santé et aboutit même à l'inverse. Puisqu'on sait que la restriction va potentiellement déclencher des crises de boulimie et les personnes risquent de prendre plus de poids que de n'en perdre à terme.
Alors sur Instagram ou sur TikTok, le plus difficile, c'est en tout cas ce que moi j'ai constaté, une fois que l'algorithme se met en route, le réseau social ne propose plus que ça. Alors j'ai le droit aussi à la vidéo d'une jeune mariée qui, le jour de son mariage, ne boit que du rosé allégé en sucre, des légumes crus en tranches comme si c'était normal. Et ces vidéos, Clémentine, originaire des Hauts-de-France, elle les dénonce. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Elle se bat contre l'orthorexie, l'anorexie, depuis près de 9 ans, c'est-à-dire l'obsession de manger sain et très peu. Elle raconte son parcours pour alerter sur cet enfer.
J'avais toujours déjà un rapport à la nourriture compliqué, notamment, je dirais, de l'hyperphagie. Je mangeais beaucoup.
Tu mangeais sans t'arrêter ?
C'est ça. Au collège, j'étais une élève assez isolée, donc la nourriture, c'était un moyen de se réfugier. J'ai eu un deuil, moi, dans ma famille, qui m'a énormément marquée. J'ai perdu mon beau-père et j'ai voulu, du coup, reprendre le contrôle sur ma vie, sur l'alimentation, sur le sport, sur ma scolarité également.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je pense, comme beaucoup de personnes, j'ai décrété un lundi, je fais régime. Ça se manifeste par le fait de vouloir manger sainement, donc bio, équilibré. C'est le refus de manger tout ce qui est aliments transformés, les sucres, les graisses, le sel, les protéines par la suite. Donc je mangeais bio, je mangeais que des légumes. En fait, je voulais rien manger qui puisse polluer mon corps.
Du coup, quand tu n'avais pas ces aliments à disposition...
Alors, soit ça part en énorme crise d'anxiété parce qu'on veut absolument pas être sale, ou alors je mangeais pas. J'ai perdu du poids très rapidement. J'ai commencé fin mars mon régime. Je faisais dans les 76 kilos pour 1m72. Qu'en septembre de la même année, j'en faisais plus que 58. Je suis descendue jusqu'à 41 kilos. Ouais. J'étais en dénutrition totale. Ouais. On perd ses cheveux, on perd ses ongles. Moi, j'étais devenue, pour vous dire, incontinente. Parce qu'on a tellement plus de masse musculaire qu'on ne sait plus se retenir pour faire pipi. Ben oui, on n'a plus de périnée, on n'a plus rien. Hein. Enfin, le tout fond. Et c'est le jour en fait où je me suis fait pipi dessus, où j'ai dit bon, maman, je crois que j'ai besoin d'aide. Ouais. Je me suis fait peur en fait.
Est-ce que tes parents, tes proches, tes amis voyaient quelque chose ? Est-ce qu'ils te disaient quelque chose ou...
Lorsqu'on a des troubles du comportement alimentaire, on a une tendance à être très psychorigide, voire tyrannique avec l'entourage. Dès qu'on essaie de nous influencer, dès qu'on essaie de nous imposer un aliment. Donc ma mère était totalement démunie par rapport à ça. Sinon, c'était des colères monstrueuses, en fait. Hein. J'ai un souvenir où elle avait cuisiné des légumes, elle avait mis de l'huile dedans. J'ai senti qu'il y avait de la matière grasse dedans, j'ai jeté l'assiette dans la pièce, quoi. Je ne suis pas un porc, je ne suis pas une truie. On est malade, en fait. Le reste de mon entourage, lui, par contre, avait une tendance à me féliciter.
Parce que c'est toujours bien vu d'avoir, c'est quoi ? C'est d'avoir la force de faire un régime ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est par exemple au self, à la cantine. Moi, je mangeais que des crudités. Waouh, j'aimerais trop avoir ton mental. Je fais de l'activité physique. Je rentre dans un 32. T'es trop forte. J'étais admirée et encensée par les filles qui me félicitaient, oui.
Bon, moi, ce témoignage, il m'a bouleversée. Clémentine, elle le dit, c'est elle qui a demandé de l'aide. À 41 kilos, dans une situation extrême, elle avait seulement 17 ans. Docteur Godard, comment expliquer que certains parents, certains proches, ne mesurent pas la gravité de la situation avant d'en arriver là ? Comment on repère au bon moment la maladie ?
Alors, je pense que certains parents, effectivement, ne voient pas les choses parce que déjà, les adolescents les cachent, et donc, ou par des vêtements, ou par des comportements, ou en banalisant leur comportement. Comment on repère ? On repère sur des changements d'attitude de son enfant. Et on repère pas forcément l'alimentation, mais on peut repérer peut-être une tristesse, on peut repérer un désintérêt pour ses amis, la fuite des repas, le fait aussi, parfois, que des aliments disparaissent quand on parle plutôt de boulimie. Et on peut repérer effectivement une perte de poids chez certains jeunes. Il faut savoir que quand ça survient à l'adolescence, les jeunes ont une certaine autonomie, ne prennent pas tout leur repas devant les parents et peuvent prendre des repas normaux quand ils sont avec eux et jouer sur les autres repas ou sur une activité physique importante. Donc effectivement, il faut être vigilant face à ces enfants. Et je vous dis, des signes d'appel, c'est déjà aussi la tristesse, indépendamment de ces changements de comportement alimentaire.
À vous entendre, il y a autant de symptômes que de malades, de variantes aussi de la maladie. On a entendu donc l'orthorexie, l'obsession de manger sain. J'ai entendu parler aussi de la bigorexie. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, je pense que orthorexie et bigorexie ont en ce moment un certain succès. La bigorexie, c'est le fait de trouver que son corps n'est pas suffisamment étoffé et musclé et de vouloir le muscler. On n'est pas dans le trouble des conduites alimentaires, là. On est dans un trouble de la perception de soi et avec des attitudes qui sont associées à ça. Quant à l'orthorexie, c'est effectivement un comportement d'hyperhygiénisme, de vouloir avoir une alimentation tellement positive et normalisée qu'elle en devient restrictive et complètement contrôlée et pas du tout adapté en fait à nos besoins.
Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur les réseaux sociaux parce que certains créateurs de contenu ont encouragé récemment les jeunes à prendre des médicaments pour les diabétiques comme le Mozempic pour contrôler leur poids ou à faire des défis. Vous en avez entendu parler, docteur ?
Alors j'ai entendu parler de cette question des médicaments qui est vraiment un usage détourné qui est récurrent sur différentes molécules et qui est extrêmement dangereux. Il n'existe pas de molécules qui permettent de durablement perdre du poids à part pour des personnes qui effectivement sont sur poids de manière importante. Et il faut vraiment alerter les jeunes sur les dangers d'utilisation de ces molécules.
Et c'est-à-dire, quels sont les dangers ?
Eh bien, il y a des complications liées à la prise de ces médicaments qui peuvent être des complications cardiaques, des complications au niveau rénal. Et il faut faire extrêmement attention.
Alors, il y a eu une vidéo virale, hein, un challenge récemment qui consiste à entourer sa taille avec des écouteurs en faisant deux fois le tour. Le défi de la feuille A4 il y a quelques années, devant son buste, la feuille elle doit entrer parfaitement entre la poitrine et les hanches sans que rien ne dépasse. Et ce genre de choses cultive clairement le culte de la minceur selon Clémentine. Elle-même, elle a tenu son régime grâce à Internet.
J'ai été motivée par les articles. Quel est le régime le plus efficace ? Quel est le régime miracle ? Spoiler, ça n'existe pas. Il y avait Vogue Magazine qui faisait toujours des vidéos sur la vie, le quotidien d'une top modèle. Et je regardais en fait ce qu'elle mangeait, je regardais comment elle vivait. Et ça m'a motivée. Enfin, moi, quand j'avais faim et quand j'étais frustrée de peu avoir mangé, hop, je tapais régime Heidi Klum et j'allais regarder régime Victoria's Secret. Et je regardais exactement ce qu'elle mangeait, et là, c'était les choucals, c'était des crudités.
Et ça te donnait de la motivation ?
Ah oui, c'était des mentors, en fait. Pour moi, c'était un outil de me maintenir dans le trouble, en fait. Via Instagram, hein, je dirais, les influenceurs, les « fit girls », entre guillemets. Donc
c'est quoi ça, les « fit girls » ?
Les « fit girls », pour moi, ce sont les personnes qui ne vivent qu'à travers leur évolution physique, le sport et l'alimentation. Et elles le filment, elles mettent ça en scène afin de motiver les autres. Moi, je sais qu'en tout cas, pour me protéger, j'ai dû bloquer certains mots-clés, j'ai dû bloquer énormément de comptes. Et ça revient sans cesse, d'ailleurs. What I eat in a day, enfin, une journée dans mon assiette. Alors, c'est des gens qui filment l'intégralité du repas, du petit déjeuner au dîner, en fait.
C'est pas forcément sain ?
Alors, c'est très esthétique, c'est joli, c'est des belles assiettes, c'est coloré. Souvent, c'est incomplet, en fait. Il manque des protéines, il manque des féculents, il n'y a pas de sucre.
Il y a aussi des challenges, des défis.
Moi, à mon époque, c'était le thigh gap. C'était l'écart entre les cuisses suffisant pour qu'on puisse passer ses deux avant-bras, en fait, entre deux. Il y a eu aussi, je sais, les tendances de pouvoir mettre des pièces de monnaie au niveau des clavicules. Au plus les clavicules étaient osseuses, au plus on pouvait mettre des pièces et c'était des challenges. Il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. Et je sais par exemple que TikTok et même Instagram, quand on marque certains mots-clés liés aux troubles alimentaires, le mot anorexie même, on ne pourra pas le trouver sur le réseau social. Ça va nous mettre un petit message, tu n'es pas seul, n'hésite pas à consulter un médecin, blablabla. C'est une pseudo-prévention, mais c'est totalement inutile, parce qu'il y a énormément de noms de code, de mots cachés. C'est vrai qu'on ouvre notre application, on tombe dessus. Moi, dès que je vois quelque chose, je mets que je ne suis pas intéressée, je bloque les comptes. Pour autant, je tombe très facilement dessus. Donc, je n'imagine pas quelqu'un qui n'est pas informé de tout cela, bah, j'imagine pas son fil d'actualité, quoi.
Alors, ces mots-clés cachés, moi, j'en ai repéré un. Thinspiration, contraction de thin, mince en anglais, et inspiration. Il n'est pas interdit, je précise. Alors, maintenant que le constat a été posé, qu'est-ce qu'on fait, docteur Godard? Est-ce qu'on peut vraiment agir sur les grands groupes qui dirigent les réseaux sociaux?
Alors, ça, ce sont des politiques. Je pense qu'il faut que nos politiques puissent agir et mettre des réglementations d'utilisation. Après, on essaie effectivement de travailler avec ces réseaux sociaux pour faire des choses, effectivement, que Clémentine dénonçait comme pas suffisantes, mais quand même essayer d'accompagner, essayer qu'il y ait une visibilité sur les filières de soins, sur les possibilités d'aide. Et puis, il faut aussi être, j'allais dire, un peu optimiste. Il y a aussi des éléments d'aide sur les réseaux sociaux ou d'aide sur Internet. Et il faut aider à promouvoir cette aide et potentiellement accompagner les jeunes et être plus présents nous-mêmes en tant que soignants ou en tant qu'adultes sur les réseaux sociaux.
Vous qui conseillez les parents, les adolescents pour éviter ces pièges, comment fait-on ?
Il est clair aussi qu'il y a une quantité de consommation de temps de réseau social qui est associé à l'augmentation de ces difficultés et que je pense qu'il faut aider les jeunes à diminuer leur consommation. Il faut aussi donner une éducation aux médias pour avoir un regard critique sur ce qu'il s'y passe afin qu'ils puissent, en utilisant ces réseaux, ne pas tomber dans ces pièges.
Quand on en arrive à consulter un psychiatre, c'est bien évidemment que le problème s'est déjà manifesté. Mais il n'est pas trop tard si c'est pris suffisamment tôt, dit le Pouget, je me tourne à nouveau vers toi. Il existe des centres, des structures spécialisées.
Oui, il en existe de toutes sortes, hein, des services pédopsychiatriques, les maisons des adolescents, des services de médecine interne, à l'hôpital, en ambulatoire. Au total, en France, il y a plus de 150 équipes spécialisées dans cette prise en charge des patients souffrant de TCA et qui offrent des soins spécialisés. Alors certains utilisent plus des thérapies cognitives comportementales, les fameuses TCC, d'autres mettent l'accent sur des traitements médicamenteux. Je pense que le docteur Godard ne me contredira pas en disant que la prise en charge, elle doit être d'emblée pluridisciplinaire, hein, psychologique, nutritionnelle, sociale et familiale.
Absolument, je suis absolument d'accord avec vous et puis je voudrais insister sur le fait qu'il y a des ressources sur Internet et qu'il y a un annuaire des structures que vous mentionnez sur le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie qui permet d'orienter les personnes qui cherchent des soins et une ligne téléphonique qui est le 09 69 325 900 qui permet aux personnes qui cherchent à savoir comment entrer dans les soins ou qui veulent aider un proche de pouvoir avoir une aide.
La zone grise, c'est que ces centres et cette prise en charge pluridisciplinaire, elle n'existe pas partout et sur tout le territoire. De nombreux psychiatres, d'ailleurs, dénoncent ce manque de moyens.
Oui, il n'y a pas assez de ces centres. Je vais vous citer un exemple. Au plus fort de la pandémie, par exemple, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, dans une unité spécialisée dans la prise en charge des troubles alimentaires, eh bien, il y avait une trentaine de personnes qui étaient sur liste d'attente, avec pour chaque place libérée au moins 5 à 6 patientes en situation d'urgence. Selon les chiffres de la Fédération française anorexie boulimie que vous citiez tout à l'heure, docteur, plus de la moitié des personnes qui souffrent de ces troubles de comportement alimentaire ne sont pas dépistées et n'ont donc pas accès aux soins.
Alors notez avant tout que le 2 juin prochain aura lieu la journée mondiale de sensibilisation des troubles du comportement alimentaire. Sur ce thème précisément d'ailleurs des réseaux sociaux, il y a un site internet je crois.
Oui, vous allez sur le site Journée mondiale TCA.
Merci Odile Pouget, merci au docteur Nathalie Godard et à Clémentine d'avoir témoigné avec beaucoup de courage. C'est la fin de cet épisode de Focus. N'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire, à en parler autour de vous et à écouter les autres épisodes sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes partenaires.